The wind's 120 knots to the west.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Oh my gosh, dude.
Radio X.
Bon début de soirée sur les ondes de choix 98.1 Radio X, dernière de la saison en ce vendredi 13 juin 2025. Émission spéciale ce soir en vue des vacances estivales. Et sans plus tarder, voici la bande-annonce qui lance notre thématique de la soirée.
C'est une guerre et nous sommes l'armée de notre Seigneur. Emma ne va pas bien. J'aurai besoin de 3 autres personnes dans la pièce. Elles se chargeront de la contention. Le père Steiger pourrait tenir un journal. Le démon usera de tous les moyens pour nous faire échouer. Nous devons être déterminés. Nous repousserons le mal dans les ténèbres.
Emma?
Et ces démons, quittez le corps de cette servante de Dieu. Allez-vous-en! Allez-vous-en!
Bientôt ou actuellement à l'affiche, la bande-annonce du rituel qu'on vient d'entendre et l'animateur de la soirée de cette émission, M. Christian Page. Bonsoir.
Bonsoir, Camille.
J'ai vu la bande-annonce pas plus tard qu'hier soir avec mon copain. Il a dit, ouais, c'est ça, basé sur des faits réels. J'ai dit, avec Christian, on sait que le basé, ça peut être 5%. Et ça va jusqu'à peut-être 90%. Pour ça, on est généreux. Là.
Voilà. Mais en même temps, on comprend que quand on fait un film basé sur une histoire vraie, il faut bien comprendre qu'on ne fait pas un documentaire. Donc moi, je n'ai absolument aucun problème avec le fait qu'on ait quelque part une espèce de liberté au niveau du scénario pour pouvoir adapter ça. L'objectif premier, c'est de divertir le public. Donc, à ce niveau-là, que le film s'éloigne des faits réels, moi, j'ai absolument aucun problème avec ça.
Dans un but de divertissement. On refait pas l'histoire. Là.
Voilà. Donc, si les gens veulent connaître cette histoire-là de manière détaillée, ben, je vais les renvoyer à regarder un documentaire. Mais ce qui, moi... Et faut quand même le dire, je n'ai pas vu le film. J'ai vu passer cette semaine, hein, le film est sorti là, il y a quelques jours à peine en salle. J'ai vu passer quelques critiques, les critiques sont plutôt mauvaises. C'est quand même surprenant, hein, parce qu'un film qui met quand même en vedette Al Pacino, c'est quand même une légende. Et le film est assez... les critiques sont plutôt mauvaises. Mais en fait, ce qui revient beaucoup dans les critiques, c'est du réchauffé. Et sans même avoir vu le film, c'est quand même vrai que j'en ai vu beaucoup de ces fameux films de possession diabolique. Mmh. C'est vrai qu'au cours des dernières années, c'est une thématique qui a été là, surexploitée par le cinéma d'horreur. Et si on met à part, on met de côté l'exorciste qui va toujours demeurer un peu un cas particulier.
Ouais. Ouais.
Tous les autres films de possession, tu sais, l'exorciste du pape, le dernier exorcisme, etc., etc., le rite avec Anthony Hopkins... Bah, c'est toujours un peu la même chose. Là. On n'en réinvente pas la roue, la posséder, puis là, les curés autour, puis sort de ce corps Satan, puis la voix gutturale, puis la soupe au poids. T'sais, on les a à peu près tout vus. Je veux dire, je ne vois pas vraiment comment on pourrait apporter quelque chose de nouveau.
Je regarde les critiques, justement, Christian. IMDb, c'est le premier week-end d'ouverture, mais 4,7 sur 10, puis le Rotten Tomatoes, un maigre 7%. Donc, ça commence pas bien.
Ça commence pas bien. Donc, c'est ça semble être un peu du réchauffé. Hein. Mais je ne critiquerai pas le film, je ne l'ai pas vu. En revanche, ce qui m'a agacé, c'est de voir à la fois dans la bande-annonce, hein, on nous dit ben voilà, c'est l'exorcisme le plus terrifiant de l'histoire, c'est l'exorcisme le mieux documenté. Et on retrouve ça également dans les présentations du film. Et là, je me suis dit, ouais, ça veut dire qu'on peut faire... on est en train de faire dire à peu près n'importe quoi à la publicité.
OK.
Et je pense que, bon, n'eût été de notre émission de soirée qui devait s'adresser, où j'ai dit, bon, on va faire une thématique de façon très générale sur ce que l'on doit surveiller cet été, là, au niveau du surnaturel, j'aurais probablement consacré l'émission à cette histoire-là. Parce que ce qui est un peu malheureux ici, même si la critique du film est très mauvaise, l'histoire qui nous est présentée est une histoire qui est tout à fait intéressante. Mais, contrairement à ce que nous dit la publicité, c'est loin d'être l'exorcisme le plus terrifiant et c'est surtout loin d'être l'exorcisme le mieux documenté. En fait, on sait très peu de choses à propos de cette histoire d'exorcisme. Et je vais quand même prendre quelques minutes pour mettre un peu les auditeurs là, dans les conditions du film. La vraie histoire derrière le rituel. Donc, le film s'intitule, hein, il est sous-titré « L'exorcisme d'Emma Hecklund, d'Emma Schmidt ». Il faut savoir que le Emma Schmidt, de son vrai nom, s'appelait Anna Hecklund.
Oui.
Et on dit l'exorcisme, en fait, on aurait dû intituler ça « Le deuxième exorcisme d'Anna Hecklund ». Parce que c'est une histoire qui est assez complexe, mais encore une fois, c'est bien important de préciser qu'on a, somme toute, très, très peu de documents à propos de ça. Donc, qu'est-ce que l'on sait de l'histoire? D'abord, il y a une seule entrée au niveau des autorités vaticanes. Et cette entrée, elle remonte à 1912. En 1912, et c'est très laconique, hein, on sait qu'en 1912, il y a un exorcisme qui a été autorisé dans le diocèse de Brooklyn, à New York.
Okay.
Il faut savoir qu'à Brooklyn, on a une très, très forte communauté d'immigrants allemands. Et ça se passe donc dans cette communauté allemande. Et donc, le père, qui s'appelle Théophilus Reisinger, va demander aux autorités diocésaines de pouvoir procéder à un rituel d'exorcisme qui est accordé.
C'est à cause du cinéma, Christian, qu'on pense que ça arrivait vraiment souvent, en fait.
Pardon? Oui, effectivement. Donc, c'est pas... Mais c'est vrai qu'au cours des dernières années, le phénomène est un peu en augmentation. Et moi, j'accuse directement l'augmentation de films qui montrent des okay. possessions diaboliques. Hein. On dirait que c'était un peu... Ça va un peu de concert, ça.
Okay.
Mais donc, on a cette histoire-là, 1912... où on a une jeune femme qui s'appelle Anna Hecklund. Je dis jeune femme, elle a 30 ans à ce moment-là, c'est ce que le document nous dit. Et encore une fois, hein, dans les rapports diocésains, là, c'est vraiment une toute petite entrée qu'on a. Et le document au Vatican nous dit, nous mentionne le nom de la possédée, hein, Anna Hecklund, le prêtre exorciste, Théophilus Reisinger. Et là, on nous mentionne, hein, en trois lignes, on nous dit que Anna Hecklund est une jeune femme qui vient d'une famille dysfonctionnelle, que son père son père est suspecté d'inceste. Et ensuite, elle est allée se confier au père Reisinger après une opération. Et là, moi, qui a vu cette note-là, j'ai longuement réfléchi. Je me dis, pourquoi mettre dans une même note qui contient quatre lignes, pourquoi mentionner qu'elle rencontre Théophilus Reisinger après une opération? Et ça, juste la ligne après qui est mentionné que son père était incestueux. Donc, la conclusion, ouais. C'est la mienne. Je ne vais pas nécessairement dire que c'est le fait, mais je pense que si on lit un peu entre les lignes, probablement que Anna Hecklund a été mise en scène par son père. L'opération dont on parle, c'est probablement un avortement. Et compte tenu de tous les tabous de l'Église, à la fois par rapport à l'avortement, mais par rapport aussi à l'inceste, je pense qu'Anna Hecklund, qui devait à ce moment-là être en proie à une espèce de désarroi religieux, spirituel, et est allée se confier à Théophilus Reisinger. Et Théophilus Reisinger, on va le voir, au cours des années, il va devenir un espèce d'apôtre de l'exorcisme. Hein? Je veux dire, il s'improvise exorciste à tout bout de champ, même sans les autorités diocésaines. Donc, c'est un individu qui aime beaucoup l'exorcisme. Et donc, mais cette fois-là, il est autorisé à faire cet exorcisme sur Anna Hecklund. Et à mon avis, comme je le mentionne, probablement que ça venait dans un environnement un peu dysfonctionnel, un père incestueux, probablement au lendemain d'un avortement. Et on n'en sait pas plus, hein, c'est-à-dire que le document n'est pas plus explicite que ça, on ne sait pas dans quelles conditions le rituel s'est fait, on ne sait pas dans quelle mesure il y a eu des effets positifs par rapport au rituel. Il y a ces quelques lignes qui sont entrées. Et puis là, on perd éventuellement la trace de cette Anna Hecklund qui ne réapparaîtra pas dans les archives du Vatican. C'est bien okay. important de le mentionner. Et puis les années passent, et éventuellement, on est rendu à ce moment-là, on est en 1928, le père Reisinger, qui était au départ dans le diocèse de Manhattan, a été transféré dans une petite ville qui s'appelle Marathon, qui se trouve au Wisconsin. Et Marathon, écoute, pour y être allé il y a quelques années, c'est une ville d'à peu près 1500 habitants aujourd'hui. On peut, on peut s'imaginer qu'en 1928, ça devait être 200 personnes.
Tu sais, ben, bon. Ça reste quand même un village à 1500.
Oui. Et dans ce village-là, c'est un village qui a été fondé par des immigrants allemands. Marathon est un village allemand. Donc, Reisinger est transféré pour avoir un ministère à Marathon. Et crois-le ou non, parmi les paroissiennes se trouve qui? Anna Eklund, hein, cette jeune femme qui, 16 ans plus tôt, il a 18 ans plus... Non, c'est ça, 16 ans plus tôt, il a exorcisé à Manhattan. Elle fait partie des citoyens de Marathon. Et on ne sait pas trop de quelle façon ça va se passer, mais éventuellement, elle va se confier à Reisinger à nouveau, qu'elle croit être à nouveau possédé. C'est pour ça qu'on dit le deuxième exorcisme d'Anna Eklund. Et là, elle dit à Reisinger qu'elle croit être possédée par plusieurs démons. Et elle dit, notamment, elle parle de Lucifer et Belzébuth, Judas. D'ailleurs, ici, hein, mentionnons que Lucifer et Belzébuth, selon les... Les dogmes de l'Église, c'est la même personne.
Ben, c'est ce que je pensais. Oui.
Tu ne peux pas être possédé par Lucifer et Belzébuth. Hein. L'un, c'est une espèce de traduction sumérienne, l'autre, c'est une traduction grecque, mais okay. C'est le même personnage.
Ben, oui.
Donc, quand elle dit « je suis possédé par Lucifer et Belzébuth », ben là, selon les dogmes de l'Église, c'est la même entité diabolique.
Okay.
Ensuite, elle dit « Judas ». Ben là, évidemment, Judas, on a bien compris que c'est un individu qu'on aime bien pointer du doigt, là, parce que bon, c'est celui qui a entraîné la mort du Christ. Et ensuite, elle dit, elle parle qu'elle croit être également habité par l'esprit de son père, Jacob, qui était le fameux père incestueux, qui est décédé depuis. Et elle dit également, elle croit être possédée par l'esprit de Mina. Mina, c'était la maîtresse de son père. Mais encore une fois, on est dans un milieu assez sordide, hein, parce que Mina, si c'était la maîtresse de son père, il faut savoir que c'était également la sœur de son épouse. Hein. Donc, la tante finalement d'Anna, parce qu'à un moment donné, quelques années plus tôt, la mère d'Anna est tombée malade et pendant qu'elle était alitée, on ne nous dit pas c'était quoi la maladie, on peut supposer que c'était un cancer ou quelque chose comme ça. Donc alors qu'elle était alitée, sa sœur, Mina, est venue prendre soin d'elle à la maison à Marathon. Et c'est durant le temps où elle était à son chevet pour prendre soin d'elle...
Qu'elle a
pris soin également de son mari. Et donc, après le décès de la dame, ben, le couple ont continué là, finalement d'entretenir cette liaison. Et on peut comprendre que Anna déteste sa tante Mina parce qu'elle voit en elle une femme qui a comme un peu profité de la maladie de sa mère et bon, son père, puis bon, il y a tout l'aspect de l'inceste autour de ça. Et Mina également est décédée à ce moment-là. Au moment où on se parle, en 1928, alors qu'elle confie tout ça au Père Reisinger, Mina est décédée depuis peu. Et pour une raison qui n'est pas mentionnée, elle la considère comme une sorcière. Donc, on ne sait pas pourquoi elle croit ça, mais elle croit que sa tante était également une sorcière. Et là, elle dit qu'elle croit être donc possédée par toutes ces entités. Et comme je te l'ai mentionné, hein, comme la ville de Marathon est une toute petite ville, le Père Reisinger décide de ne pas procéder à un exorcisme sur place. Cette fois-là, il ne passe pas par les autorités diocésaines, sinon on aurait probablement une entrée dans les archives du Vatican, ce que l'on n'a pas. Donc, visiblement, Reisinger va prendre sur lui le fait de procéder à un rituel d'exorcisme. Comme Marathon est une petite ville et qu'il craint les ragots, il décide de faire appel de passer par quelqu'un d'autre. Donc, il contacte un de ses compagnons, un autre prêtre, le père Joseph Stanger, dont on entend d'ailleurs dans la bande-annonce, il dit peut-être le père Stanger pourrait tenir un journal. Donc, ce père-là, c'est Joseph Stanger. Il tient, lui, ministère dans une autre ville qui se trouve dans l'État voisin de l'Iowa. Et c'est une petite ville qui s'appelle Earling. Et là, écoute, aujourd'hui, là, Earling... De mémoire, là, pour avoir, quand j'y suis allé, je pense que c'était 300 habitants. Donc, c'était encore plus petit, tu comprends? C'est encore plus petit que Marathon.
C'est soit encore, ça a grossi à peu près dans le même ratio que l'autre ville, ou ça a juste, c'est devenu une ville fantôme aujourd'hui.
Voilà. Donc, on avait à ce moment-là un petit village de 200 habitants à peu près, et peut-être même moins que ça, parce que 200 habitants, ça c'est aujourd'hui. Donc, à l'époque, c'était peut-être une poignée, une dizaine d'habitants. Mais ce qui est très particulier de cette ville de Earling, c'est que non seulement il y a le père Stenger qui est là, qui assure le ministère, mais il y a également un couvent de sœurs. Et Théophilus Reisinger se dit, ben voilà, un, on pourrait éloigner Emma de Marathon, et en l'envoyant à Erling, on pourrait la loger au couvent des bonnes sœurs, finalement, qui prendrait soin d'elle. Puis, en même temps, avec l'aval de la mère supérieure, on pourrait utiliser l'une des chambres du couvent pour procéder au rituel d'exorcisme. Donc, à partir du mois d'août 1928, le père Asseigneur et Emma Eklund vont prendre tous deux un train séparé, hein, pour pas qu'on fasse de lien entre les deux. Donc, Asseigneur prend un train, Emma prend un autre train, toutes les deux se retrouvent finalement à Hurling, et elle est admise finalement au couvent des bonnes sœurs. Et comme on entend dans la bande-annonce, il y aura trois personnes qui vont être au chevet. En fait, il y en aura un peu plus que ça, mais principalement la mère supérieure du couvent. Il y aura également Joseph Steiner, qui tient ministère à Hurling, et bien sûr, le père Théophilus Asseigneur, qui va agir comme prêtre exorciste pour le rituel. Et tout ça va se tenir entre le mois d'août et le mois de décembre 1928. Durant le rituel, écoute, là, on a tous les manifestations qui sont très souvent associées à l'exorcisme, c'est-à-dire qu'Anna parle, elle n'est pas toujours possédée, on s'entend bien, là, c'est pas 24 heures sur 24, elle a des périodes de possession. Le reste du temps, elle retrouve ses esprits normalement. Mais durant les périodes où elle se dit possédée, ben, elle vomit, hein, le père Reisinger va dire, elle vomit et elle défait une quantité de déchets là, tout à fait inimaginable pour la personne frêle qu'elle est. Il faut dire qu'à ce moment-là, Anna Eklund, elle a 46 ans au moment de ce deuxième exorcisme. Donc, elle vomit et défèque des quantités incroyables de déchets. Elle urine également, crache sur les officiants. Elle parle d'une voix gutturale. Et l'événement qui va marquer l'imaginaire de cet exorcisme, qu'on a vu d'ailleurs être repris dans certains films de soi-disant possession diabolique, je pense d'ailleurs que l'affiche d'un film il y a quelques années qui s'intitulait, je pense, Le dernier exorcisme de mémoire.
Oui, oui.
Je pense que l'affiche nous montre une femme qui est comme grimpée au mur, puis elle est comme dans le coin, là. C'est comme réfugiée dans le coin de la pièce, au plafond. Ben ça se passe durant le fameux rituel de Anna Eklund, c'est-à-dire qu'il y a une contention, et à un moment donné, elle réussit, et là, c'est selon les témoins qui étaient là. Donc, elle réussit à se libérer de la contention, elle va frapper la mère supérieure, frapper également les prêtres exorcistes, les officiants qui sont sur place, et puis elle va réussir à grimper au mur, un peu comme cette fameuse affiche du film Le dernier exorcisme. Elle grimpe un exploit digne de Spider-Man, là, ben ça va se loger dans le coin du plafond, là, entre le mur et le plafond. Et puis éventuellement, bon, évidemment, on la ramène, elle est de nouveau attachée sur son lit, et éventuellement, en décembre 1928, le rituel va se terminer. Donc là, tu te dis, waouh, mais là, Christian, tu avais beaucoup d'informations. Ah, l'information que je t'ai donnée, c'est à peu près la seule information qu'on a.
Ça ne peut pas être la plus documentée.
Non, et voilà, parce que, bon, voilà, absolument. Bon, d'abord, dans un premier temps, tout ce que l'on a ici, c'est essentiellement des oui-dire. Hein. D'ailleurs, bon, Théophilus Reisinger n'écrira pas, lui, vraiment le rituel de l'exorcisme. Il y a Joseph Steiner qui est là, et c'est Joseph Steiner qui va surtout en parler autour de lui. D'ailleurs, il est, dans les confidences qu'il va faire, il a été très choqué de voir que, en fait, il n'était pas d'accord avec la façon dont Théophilus Reisinger menait l'exorcisme. On ne sait pas pourquoi, mais il y a des choses qui apparemment allait à l'encontre de la façon de faire de l'Église. Et bon, évidemment, quand on parle de ce rituel en 1928, on comprend bien qu'on a utilisé l'ancien rituel de l'exorcisme, celui qui datait de 1610. Le premier rituel datait de 1610, quand on l'a écrit, et il y a eu une refonte, une réécriture en 1984 sous le pontificat de Jean-Paul II. Donc, au moment où on fait cet exorcisme, en 1928, on a encore le rituel de 1610 entre les mains. Et ce rituel, c'est « Sors de ce corps, Satan », là.
Bon, okay. C'est ce qu'on imagine. Qu'est-ce que t'as écrit, donc, ça?
Oh, ouais, « Sors de ce corps », puis bon. Fait que c'est le rituel qui se passe. Et pourquoi on connaît cette histoire-là? Bien, en fait, c'est assez étonnant, hein, parce que, bon, Théophilus Reisinger n'en parlera pas beaucoup, à tout le moins n'écrira pas à ce sujet-là, mais les gens qui l'ont accompagné dans le rituel, notamment Joseph Steiner, vont éventuellement se confier. Et ils vont se confier à un prêtre, un dénommé Vogel, qui éventuellement va écrire cette histoire-là. Mais on comprend bien là, ici, là, il l'écrit, hein, c'est le récit du gars qui a entendu le gars raconter l'histoire.
Ouais,
donc
ouais,
on n'a
ouais,
pas
ouais.
le document lui-même. Et éventuellement, toute cette histoire-là qui repose davantage sur le récit du récit de monsieur, donc on a des récits de deuxième et de troisième main, va faire l'objet d'une petite monographie qui va être publiée en 1935, qui s'appelle « Begone Satan ». Et cette petite monographie va être distribuée dans certaines églises catholiques et elle va être vendue 15 cents. Donc, on peut aller à l'église, là, tu sais, pour les gens qui ont fréquenté les églises dans les années 60 ou 70, on entrait là, puis il y avait parfois des petits feuillets paroissiaux.
Oui.
Bien, parmi les feuillets paroissiaux et quelques brochures, bien, il y avait ce petit fascicule, Begone Satan, qui se vendait 15 cents, qui racontait l'histoire d'Anna Eklund, mais qui la racontait de manière très, très... très superficielle, on n'entrait pas beaucoup dans les détails, pas beaucoup au-delà de ce que je viens de te raconter. On n'a pas beaucoup plus d'informations que ça. Et la monographie, ben, en dehors de raconter ces quelques éléments, consacrait le reste du document à nous dire elle ne pécherait pas parce que si vous péchez, vous risquez de devenir la proie de Satan, etc., etc. Donc, on avait une espèce de mise en garde sur comment protéger sa foi et ne pas se laisser entraîner dans les vices par le diable. Donc, on a sur un document d'à peu près 15 pages, dans cette petite monographie d'une quinzaine de pages, une vingtaine de pages, on a le tiers qui nous raconte en quelques pages l'exorcisme de Nightland, et ensuite, on a tout le reste qui est la mise en garde. Ce document-là, et on a eu par la suite, on a un document un peu plus étoffé qui s'appelle The Erling Possession Case, qui a été encore publié, qui reprend le truc de Vogel, mais également d'autres rumeurs qui ont circulé, mais pas beaucoup. Là. Je dois t'avouer là, qu'on n'avance pas beaucoup avec ça. On est très, très limité. Et ça, ce sont les seuls documents que l'on a à propos de cet exorcisme-là. Il a fait l'objet d'ailleurs d'un film en 2016. Hein, c'est pas la première fois qu'il est porté à l'écran. En 2016, il y avait eu un film qui s'intitulait justement « La possession d'Anna Eklund » qui est sorti en DVD. Le film était tellement mauvais. Là. Oh, c'est... J'en ai encore des frissons, mais c'est pas le diable qui me fait frissonner, c'était la mise en scène et la façon dont le film était fait. On avait vraiment l'impression que tout était mauvais, là. Les effets spéciaux, les comédiens, les dialogues étaient mal écrits, okay. Le scénario était mal monté. On avait l'impression de voir un mauvais film tourné par des étudiants de l'école secondaire, là, tellement que c'est mauvais, là. Donc, on comprend que c'est sorti immédiatement en DVD, la possession d'Anna Eklund, puis ça n'a pas laissé sa marque, puis je peux le comprendre. Puis là, ben, visiblement, ce film avec Al Pacino ne fera pas non plus un grand carton. Là.
Tu penses qu'il a été coté à combien sur 10, le film de 2016?
Oh, moi, le film de 2016, écoute, si je devais le mettre une note sur 10, ça ne dépasserait pas un ou deux. Là. C'est vraiment okay. Un navet. Là. C'est vraiment
la moyenne est de 2,5 sur 10.
Oui, écoute,
ouais.
C'est un navet. Là. Donc, ce film-là est sorti. Mais encore une fois, hein, c'est une histoire qui est très intéressante hein, parce que si on était autour d'une table puis qu'il y avait des psychologues avec nous puis des gens qui connaissent bien le sujet de l'exorcisme, il y a toutes sortes d'éléments qui sont intéressants. D'abord, cette histoire-là ne fait aucun doute. Hein. Il y a réellement eu, l'affaire Anna Eklund est une histoire vraie. Bon, maintenant, ça aurait été intéressant de voir avec des psychologues, des psychiatres, hein, tout le contexte religieux de ces communautés allemandes du début du siècle, tout cet aspect, bien sûr, de la culpabilité qui aurait pu se développer chez Anna Eklund, qui était très religieuse, visiblement. D'ailleurs, on sait, il y a une courte mention dans le petit fascicule de 15 cents dont je parlais, que Anna Eklund avait songé à un moment donné épouser la vie religieuse quand elle était adolescente. Donc, on voit qu'elle est très croyante. Et là, ben, tout cet environnement père incestueux, la liaison entre son père et sa tante, tout ça ne fait qu'ajouter, bien sûr, à son sentiment de culpabilité. Dans un contexte très religieux, il y a une espèce de dérive psychologique qui a pu se produire. Et là, Anna a pu développer des comportements, ce qu'on appelle... un syndrome culturel, hein, c'est-à-dire que dans la communauté, j'en ai parlé à un moment donné récemment dans ma conférence sur les crimes occultes, j'ai parlé de ce syndrome-là. Donc, ce sont des communautés de gens, souvent qui sont plus restreintes et qui en arrivent à adopter des comportements en fonction de leurs croyances. Et toute la communauté adhère à ces comportements-là. C'est un peu comme de manière inconsciente, si tu crois que tu es possédé par le démon. Dans le cas de ma conférence, c'était surtout dans le cas de Kakasu Puchin, qui était un autochtone qui se disait possédé par l'esprit d'un Wendigo et qui avait dévoré sa famille. Donc, on sait que dans les communautés autochtones, il y a cette idée-là que si tu es possédé par un Wendigo, hein, il y a comme deux appellations, ben, éventuellement, tu vas t'adonner à des actes de cannibalisme. C'est ce qu'on appelle le syndrome de lien culturel. D'ailleurs, un syndrome qui est reconnu dans l'ouvrage le DSM-5, qui est cet ouvrage de référence pour les gens, les psychologues et les psychiatres. Donc, je pense que moi, ici, on est en présence d'un cas où Anna Eklund a développé un comportement de ce type-là et qui était probablement dû à des aspects de culpabilité dans un environnement familial qui était relativement glauque et qui a entraîné tout ça. Mais ça aurait été intéressant d'en savoir plus et d'avoir accès à plus de documents. Mais c'est clair que dans le cas présent, lorsque l'on présente cette histoire-là en disant que c'est l'exorcisme le plus terrifiant et le mieux documenté, faut-il le dire, l'exorcisme le mieux documenté à ce jour demeure un cas d'exorcisme qui s'est produit, un rituel qui s'est déroulé l'affaire avait commencé en septembre 75, pour le rituel, je parle, dans septembre 75, c'est terminé en juillet 1976, et c'est un cas qui est passé dans la littérature sous le nom de l'affaire Annelise Michel. Donc, ça se passe en Bavière, dans une petite ville, Klingenburg-Unheim. L'affaire commence alors qu'Annelise Michel était adolescente. Elle avait des pertes de mémoire, des espèces de vides, et puis elle en vient peu à peu. On est dans une famille excessivement religieuse. Elle en vient à développer ses pensées qu'elle doit être possédée. Et on la retrouve donc, elle passe par toute une série de batteries de tests médicaux. Les parents vont voir les médecins d'abord, et eux, bon, on prend l'affaire un peu à la légère. Elle doit saisir d'une forme assez bénigne d'épilepsie. On lui donne des anticonvulsifs, mais on ne s'y intéresse pas vraiment à l'histoire. Et puis, éventuellement, on retrouve cette Annelise Michel, début de la vingtaine, alors que les symptômes dont elle souffre ont empiré. Et les parents vont se tourner vers l'Église. Il va y avoir un rituel d'exorcisme qui va débuter en septembre 1975 jusqu'en juillet 1976. Le 1er juillet 1976, on va la retrouver morte sur son lit. Okay. Elle est morte de déshydratation et de malnutrition. Quand on voit les photos, d'ailleurs, c'est peine à croire que cette jeune femme de 22 ans, on a l'impression que c'est une femme de 60 ans survivante des camps de la mort nazis, tellement qu'elle n'a plus que la peau sur les os. Et à cause de ça, donc, les autorités vont refuser d'émettre un certificat de mort par cause naturelle. Et il y aura éventuellement des accusations pour négligence criminelle. Il faut dire que dans les derniers mois de sa vie, Annelise Michel ne mangeait plus que des insectes qui étaient dans sa chambre. Oui. Ou pour boire, elle essorait ses sous-vêtements d'urine qu'elle essorait dans sa bouche. C'était le seul liquide qu'elle prenait. Donc, évidemment, on peut se questionner sur la non-assistance à personne en danger de la part des prêtres exorcistes. T'sais. En d'autres temps, si toi, tu vois quelqu'un qui sort ses sous-vêtements dans sa bouche puis qui mange des insectes, tu vas dire que cette personne-là a clairement besoin d'un support psychologique ou psychiatrique. Ce qu'on n'a pas fait dans le cas d'Annelise Michel. Donc, il y a eu ces accusations portées pour négligence criminelle. Et à cause de ça, il y a eu un procès, et ce procès-là nous a permis d'avoir accès non seulement aux enregistrements qui avaient été faits, des enregistrements audio qui avaient été faits durant le rituel d'exorcisme, mais on a eu accès aux notes médicales, aux notes des prêtres exorcistes, tout le reste. L'évêque avait remis le dossier parce que bon, c'est un exorcisme qui avait été autorisé par l'évêque à l'époque. Et ça, à cause justement du procès, on a eu accès à toutes ces données-là. Parce
qu'en temps normal... Elle est là la grosse différence aussi, Christian. Il y a pratiquement 50 ans qui séparent les deux événements avec Anna Eklund, mais ouais, en 1928, probablement qu'il y avait le tabou tout court, peut-être de l'exorcisme.
Oui, puis on est dans l'univers du religieux, on ne touche pas à ça.
Ouais.
Alors que dans le cas d'Annelise Michel, à cause justement du procès, c'était pour la première fois, je pense, les journalistes et les gens qui s'intéressaient, les psychologues, les psychiatres qui s'intéressaient à ce genre de pathologie, entre guillemets, mais pour la première fois, ils avaient accès à une documentation étoffée qui permettait de voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait un rituel d'exorcisme. Parce qu'en temps normal, on comprend bien qu'un rituel d'exorcisme, c'est une espèce de cérémonie qui se fait entre le prêtre et le fidèle. Et ça se fait à huis clos. Là. Les gens ne sont pas invités là. Alors que là, pour la première fois, autrement dit, les portes de l'exorcisme étaient ouvertes et elles étaient ouvertes sur les débats qui avaient lieu dans le tribunal. Donc, on a pu avoir accès à ça et l'affaire Annelise Michel demeure encore aujourd'hui le cas d'exorcisme le mieux documenté à cause justement de ça. Donc, nous présenter l'affaire Anna Eklund en nous disant, ben voilà, ça c'est le cas le mieux documenté, ben, je pense qu'on fait dire à peu près n'importe quoi à la publicité.
On va faire une pause, Christian. Oui. Au retour, on poursuit notre thématique de quoi surveiller cet été. C'est dans tout thématique confondue de l'émission.
Oui,
là,
absolument.
Les gros dossiers de l'été, ce qu'on doit surveiller au retour de la pause, ici même à Radio X.
Radio X Files avec Christian Page et Camille. Radio X.
De retour à l'émission, mon cher Christian, tu m'as aussi envoyé une bande-annonce de quelque chose à surveiller pour cet été. Est-ce que c'est un film qui va sortir dans les prochaines semaines?
Oui, en fait, on va écouter la bande-annonce et c'est un film qui doit sortir en salle le 9 juillet. Donc, on écoute.
Jeannette, il faut qu'on parle à Maurice.
Mais pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Maurice, tu me fais peur, là.
Le 1er juillet 65, à 2 km au nord-ouest de Valensole, Basses Alpes, M. Maurice Masse, cultivateur, déclare avoir vu un objet volant non identifié de la grosseur d'une dauphine posé dans son champ.
Franchement, vous y croyez-vous à cette histoire?
Mon père, c'est pas un menteur.
Pourquoi les militaires, ils sont venus?
Pour des histoires de grands.
Je t'avais dit de rien dire.
Tu crois qu'il n'y a que toi qui subis cette histoire? On nous regarde comme des bêtes curieuses dans le village.
Vous avez vu exactement.
Bon, qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
On a discuté de l'affaire de Valensole ensemble le 25 avril dernier. Je suis allée valider dans notre conversation qu'on a ensemble et ça va être porté au grand écran.
C'est ça. Donc, on parlait justement en raison qu'on nous avait annoncé, on n'avait pas encore une date de sortie, on avait annoncé à ce moment-là que le film devait sortir au cours de l'été. Donc, on avait parlé, je ne reviendrai pas sur l'histoire, on est le 1er juillet 65, une histoire d'atterrissage d'OVNI qui se serait produite en France. C'est devenu un grand classique. Donc, le 9 juillet, on nous annonce, c'est la sortie dans les cinémas français. J'ignore si le film va être présenté dans des salles au Québec, mais je sais que le film sort en France. Et le 9 juillet, donc, j'imagine qu'au cours de l'été, probablement, on va pouvoir le retrouver sur certaines plateformes, par exemple, plateformes françaises peut-être, comme, Netflix ou d'autres.
Crave, là,
qui,
ou,
Crave d'autres. Qui existent.
Je vais faire la vérification, Christian, parce que souvent, des films internationaux, le cinéma Le Clap à Québec a souvent des exclusivités pour des films comme ça. Je vais jeter un œil rapide pendant que tu en parles.
Mais bref, tout ça pour dire que c'est à surveiller. 9 juillet, si vous passez du côté de la France, le film devrait être en salle. Sinon, ben, surveillez les différentes plateformes qui présentent parfois des films français. Donc, on devrait le retrouver. Puis, j'avoue avoir très hâte de voir de quelle façon on a traité cette histoire. Il y avait quelques années, alors que on faisait cette émission-là avec Annick Marceau,
oui.
On avait reçu le réalisateur du film, Dominique Filol, qui nous avait raconté un peu l'orientation du film. Ça avait été une entrevue très sympathique. Hein? Le type n'était pas là pour nous vendre du petit bonhomme vert. Là. Lui, il restait assez convaincu que l'histoire devait avoir un fond de vérité, mais on n'avait pas l'impression qu'on était en présence d'un exalté. Là, donc, okay. J'ai bien hâte de voir quelle va être la tournure du film. Cela étant dit, ce qu'il faut également, puisqu'on parle d'OVNI, un autre élément à surveiller au cours de l'été, c'est la publication, probablement en juin, nous annonce-t-on, mais ça fait quand même 3 fois qu'on la reporte. Donc, en juin, on devrait voir le rapport complet de Sky Canada.
Oui.
On en avait parlé, ça aussi, ensemble. Cette initiative remonte à 2022, dans la foulée de l'intérêt des Américains pour la question des ovnis, le département de la Défense, qui a mis de l'avant, à partir de 2022, un nouveau bureau étatique pour enquêter sur les ovnis, ou les PAN, hein, les phénomènes aériens non identifiés, pour utiliser le nouvel acronyme à la mode. Et donc, dans la foulée, le gouvernement canadien avait dit, ben nous, on peut essayer de mettre aussi notre épaule à la roue. Et on avait eu une concertation qui avait été faite par le bureau de la conseillère en chef du Canada pour savoir qu'est-ce que l'on doit faire avec les observations d'OVNI. Et on en avait parlé parce que j'ai eu la chance d'avoir été l'une des personnes qui avait été contactée par le bureau en question pour avoir un peu le pouls du paysage canadien et québécois sur les ovnis, tout ça. Et qu'est-ce que, moi, quelles étaient mes impressions, qu'est-ce qu'on devrait faire avec les observations d'ovnis. Donc, un premier rapport était sorti en janvier. Et c'est à cette occasion, d'ailleurs, qu'on en avait parlé, parce qu'avant, je ne pouvais pas, à partir du moment où ce premier rapport a été rendu public, en fait, qui était un résumé. On en avait parlé. Je peux déjà vous dire, sans vendre la mèche, qu'il n'y aura pas grand-chose de nouveau dans le rapport complet. Okay. Hein, l'orientation du bureau de la conseillère en chef par rapport à la question des ovnis demeure la même. C'est-à-dire qu'on croit, puis il faut le dire, le bureau n'a pas pris position sur sommes-nous visités par des extraterrestres ou non. Ce n'est pas son rôle de faire ça. Mais c'est de dire qu'est-ce que l'on fait avec les observations d'ovnis, quelle qu'elle soit la nature de ces phénomènes, qu'est-ce que l'on doit faire avec ces observations. Et donc, dans le rapport officiel qui doit sortir au cours des prochains jours, sinon au maximum le mois prochain, j'espère, on va voir qu'on désigne l'Agence spatiale canadienne comme étant l'agence qui devrait colliger les observations d'OVNI. Et l'objectif premier du gouvernement canadien, ce n'est pas de dire on est visité ou non par des extraterrestres, mais ce qu'on veut surtout, c'est d'offrir aux Canadiens ou aux Canadiennes une information qualitative, avoir une source d'information qui est responsable. Parce que très souvent, que ce soit au Québec ou que ce soit ailleurs au Canada, on a des organismes qui s'intéressent aux ovnis, qui sont des organismes d'amateurs. Et très souvent, puis je ne veux pas être péjoratif, mais très souvent, ces gens-là ont du petit bonhomme vert à nous vendre.
Ouais.
Et c'est ce que veut éviter le gouvernement canadien. C'est-à-dire, on n'est pas là pour dire, est-ce que oui, si les extraterrestres nous visitent, ben, on verra, là. Mais pour l'instant, on veut mettre en place un organisme qui va colliger les informations, qui va permettre aux gens, hein, les gens qui observent des ovnis n'auront pas l'impression d'être laissés à eux-mêmes. Et au lieu de se tourner vers les associations, souvent avec des noms ronflants, là, tu sais, genre l'Association internationale de recherche sur les ovnis, puis ça, c'est deux gars aquatico avec des bottes en caoutchouc, là, ben là, ils pourront dire, ben gars, je crois avoir vu un ovni, puis je vais signaler mon observation. On va mettre en place des systèmes où les gens pourront rapporter leurs observations, elles vont être rapportées, il y aura un comité, si ça se met en place, là. Mais je te parle des recommandations, là. On voudrait qu'il y ait un comité à l'Agence spatiale canadienne qui collige ces observations pour essayer de déterminer leur nature et, bien sûr, coordonner ce travail-là avec celui des Américains, avec le Bureau d'identification des anomalies en tous les domaines. Et l'un des grands souhaits du bureau de la conseillère en chef du Canada, c'est de, bien sûr, donner une information qualitative, mais en même temps, éviter, court-circuiter les théories du complot ou la désinformation qui pourrait circuler par rapport aux ovnis.
Donc, faire une instance crédible.
Voilà. Donc, ça, c'est à surveiller au cours de l'été. Probablement que moi-même, à la radio ou à la télé, je vais sûrement avoir l'occasion d'en reparler. Sinon, bien, surveillez vos fils de presse, votre flux, Netflix et tout le reste, Facebook et tout le reste, c'est-à-dire pour voir, peut-être, on va voir sûrement passer une information à ce propos lorsque le document sera rendu public.
J'aurais tendance à dire aussi direction sur la page Facebook Inexpliquée, probablement que tu
vas
alimenter cette page-là au courant de
l'été. Sur ma page Facebook et sur la page Inexpliquée, très certainement qu'on va en parler et je vais certainement commenter. Il y a des petites informations que je sais que je ne suis pas en mesure de dire là. Il faudra attendre que le rapport sorte, hein, mais il y a des petits trucs très, très intéressants là-dessus. Vous allez voir, je pense que le gouvernement canadien a décidé de vraiment lever ses manches puis dire, OK, on va s'attaquer à cette question-là puis on va essayer d'apporter de l'information qualitative.
Je nous trouve vraiment disciplinés pour notre dernière. C'est la première fois qu'on passe au travers de 4 points. Le dernier parle du grand manuel de parapsychologie scientifique.
Voilà. Et ça, je voulais le mentionner parce que on n'a pas l'occasion d'en parler beaucoup de la parapsychologie dans les grands médias. On en parle, nous, à l'émission Radio X-Files, mais moi, je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant. Puis c'est vrai qu'au cours des 20 ou 30 dernières années, c'est un sujet qui est un peu éclipsé, la parapsychologie. Puis je ne veux pas faire un éditorial, là. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée des années 2000, on avait arrivé les fameux chasseurs de fantômes. Et malheureusement, les chasseurs de fantômes qui font un travail tout à fait épouvantable, mais ils occupent l'avant-scène. Hein. Dès qu'on dit à quelqu'un « Ouais, moi, je m'intéresse à ça, les histoires de fantômes », Immédiatement, il t'imagine avec des bottes de caoutchouc, avec une caméra GoPro vissée dans le front, en train d'explorer des lieux hantés. Malheureusement, derrière ça, il faut savoir qu'il y a toute une communauté de gens dédiés à ce genre de travail, qui le font sérieusement. Et on n'en parle pas parce que c'est moins spectaculaire. Puis en même temps aussi, ces gens-là publient dans des périodiques qui s'adressent à une espèce de communauté un peu élitiste. Et les journalistes, comme les journalistes ne s'intéressent pas à ces sujets-là, il n'y a pas de courroie de transmission, si ce n'est quelques individus comme moi ou en Europe. Là, je pense à des gens comme Mallory Clément qui font ce genre de travail-là. Mais en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de courroie de transmission. Donc, je voulais en parler. C'est un ouvrage là, très, très important. On parle ici d'une brique, le 500-600 pages.
Oh.
C'est le grand manuel de parapsychologie scientifique. La publication est prévue pour le 25 juin prochain. C'est sous la direction de Renaud Évrard, Claude Berman et Jean-Louis Rebeillard. Et ce qui est intéressant, bon, peut-être les gens qui suivent Radio X-Files depuis longtemps, il y a une époque, il y a quelques années, on faisait des entrevues avec des invités internationaux.
Oui.
On a reçu notamment Renaud Évrard à l'émission qui était venu parler. Renaud Évrard qui est un peu, en ce moment, je dirais, c'est un peu monsieur parapsychologie numéro 1 en France. Donc, on l'avait reçu à l'émission. Bien, ce fameux livre, le grand manuel de parapsychologie scientifique, a été fait sous la direction de Renaud Évrard. Et dans l'ouvrage, on retrouve des textes de gens qui sont très importants, très impliqués dans la recherche en parapsychologie, certains depuis des générations. Je pense par exemple à Bertrand Meheuse, qu'on avait également reçu à l'émission. Je pense que Bertrand Meheuse est là, lui, dans l'univers de l'étrange et du paranormal depuis les années 50.
Hein,
C'est un des grands-pères de la parapsychologie. D'ailleurs, Bertrand Meheuse, c'est un des individus qui, déjà là, dans les années 50-60, avait lancé l'idée que les phénomènes, par exemple, des enlèvements extraterrestres ou tout le phénomène des ovnis devait être considéré en fonction de la science-fiction. Hein? Mais eux ne se disent pas, il n'y a pas d'extraterrestres, ce n'est pas ça son objectif. Mais il dit, c'est quand même curieux de voir comment les récits d'observation d'ovnis ou les récits d'enlèvement par des extraterrestres sont très souvent inspirés par ce que l'on retrouve dans une science-fiction. Hein. Bon, dans les années 50, les gens disaient, bon, j'ai vu un ovni, puis où je suis allé dans un ovni, puis il y avait des portes, puis les portes s'ouvraient avec des boutons, un peu comme des portes d'ascenseur. Ben, ça a fait une technologie très 1950. Là, on voit cette vision-là. Donc, mais eux, ça avait été ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle d'ailleurs toujours en France, l'hypothèse psychosociologique. Ben, Bertrand Meheuse a été l'un des pionniers de cette approche-là. Donc, Meheuse a collaboré à ce fameux ouvrage. On va retrouver également Pascal Catala, qu'on avait reçu aussi à l'émission, qui est un spécialiste sur les phénomènes de hantise et d'apparition. Et Mario Varvoglis, lui aussi, qu'on avait reçu à l'émission il y a quelques années, pour parler des fameux moulages spirites. Hein, Mario Varvoglis, je ne sais pas aujourd'hui, mais à l'époque, il était le directeur de l'Institut métapsychique international à Paris, qui demeure aujourd'hui l'une des plus anciennes organisations ou laboratoires ou centres d'interprétation sur les phénomènes parapsychologiques. Hein, ça a été créé au tout début du 20e siècle, je crois, 1908 ou 1910, 1910, quelque chose comme ça. Donc, c'est très ancien et elle est toujours en activité. C'est l'une des toutes dernières qui reste de cette grande époque là, du tournant du siècle. Quand je dis tournant du siècle, tournant du 20e siècle. Donc, à surveiller, les gens diront, oui, mais bon, c'est un ouvrage français, peut-être ça va être difficile de le trouver ici. Évidemment, je vais encourager les libraires québécois, mais je dis aux gens, si vous êtes incapable de le trouver chez votre libraire, bien, sachez qu'il existe une librairie française en ligne qui s'appelle Lyreka, L-I-R-E-K-A.
Okay.
Lyreka, qui est une librairie française en ligne dont la livraison est gratuite. Et je suis allé voir aujourd'hui avant d'en parler, et le livre sera disponible chez Lyreka. Évidemment, c'est un livre scientifique, il faut s'attendre que c'est un ouvrage qui est assez dispendieux, mais l'ouvrage sera disponible à partir du 25. Donc, si vous n'êtes pas capable de le trouver chez votre libraire au Québec, ben, sachez que Lyreka est là et vous pouvez le commander en ligne. Moi, j'ai déjà commandé de très nombreux ouvrages sur cette plateforme. C'est très sécuritaire et le service est impeccable.
Il y a possibilité aussi de le faire via leslibraires.ca. J'ai remarqué qu'on pouvait précommander actuellement. Puis on peut aller chercher parmi le réseau, justement, des librairies. On peut aller sélectionner celle de la région de Québec ou de l'autre côté de l'autoroute 20, tout simplement. Christian, il nous reste quelques minutes et vu que tu pars en vacances avec les plus gros guillemets qui existent pour Christian Page, je voulais que tu informes les auditeurs à savoir les projets que tu aurais en cours pour les prochaines semaines, pour cet été. Est-ce que tu as des collaborations? Premièrement, moi, j'ai vu un balado sur les vampires lesbiennes, qui est un titre très accrocheur. Là. J'ai vu que tu as des balados encore qui roulent. Est-ce que tu roules de la télé aussi? Est-ce que tu as des projets en à venir?
Oui, pour l'été, hein, là, je vous livre ça en primaire. Donc, pour l'été, effectivement, j'aurai encore des collaborations sur Montréal au 98.5 durant tout l'été.
Parfait.
Et ensuite de ça, j'aurai quelques présences à Salut Bonjour durant l'été, à TVA, avant la reprise de l'automne. D'ailleurs, je peux l'annoncer maintenant, à TVA, ça fait quand même 3-4 ans que je fais des chroniques hebdomadaires à TVA. Je peux déjà annoncer qu'en septembre, il va y avoir un livre qui va sortir en librairie, qui est le regroupement de l'ensemble, d'une partie. Pas tous, parce que j'en ai fait comme 300, là. Mais une partie, c'est un ouvrage sur les chroniques que j'ai faites à TVA. Donc, les meilleures chroniques à TVA vont sortir donc en librairie. Ça, c'est en septembre.
Cool!
Durant l'été, je continue les fameux balados. Hein, donc, le balado, les vampires lesbiennes. Je dois quand même te dire que c'était le titre que la presse avait donné à cette affaire-là.
Ah, c'est accrocheur!
Oui, c'était dans la catégorie. Donc, les balados vont continuer tout l'été, qui vont sortir de manière épisodique, là, comme ça, sur les sites du 98.5, mais également sur les autres plateformes bien connues, là, Google Podcasts, Apple Podcasts et Spotify. Et c'est dans deux créneaux particulier, il y a les crimes occultes et il y a également l'univers paranormal de Christian Page que je vais alimenter durant tout l'été. Et je mets également, j'annonce également que pour l'automne, il y aura également une nouvelle conférence Montréal-Québec et possiblement Trois-Rivières sur les grandes fraudes du paranormal. Et ensuite, je travaille également cet été le début. Je vais commencer à écrire deux ouvrages qui devront sortir courant 2026. Donc, le premier sera un deuxième tome sur les enfants assassins.
Ah, wow!
Qui, lui, devrait sortir quelque part au printemps 2026 et ensuite à l'automne 2026, si tout va bien. Si la santé est toujours de mon bord, je devrais pouvoir, on devrait assister à la sortie d'un livre qui me tient à cœur, sur lequel je travaille depuis des années. Et là, pour l'instant, on n'a pas encore un titre officiel, mais disons que le titre de travail, c'est « Nos ancêtres, les pas extraterrestres ».
OK.
C'est dans lequel, justement, avec des historiens, des archéologues, on se replonge dans les grandes énigmes qui sont souvent associées à des extraterrestres, puis on essaie d'expliquer un peu d'où vient cette idée-là, mais est-ce qu'on a des explications alternatives avant de faire appel aux extraterrestres pour comprendre toutes sortes d'énigmes de l'histoire. Donc ça me tenait beaucoup à cœur. Et donc, c'est un peu mes projets au cours de l'été.
Un petit été pour relaxer
un petit été pour relaxer,
faire des tours de machine aussi, des tours de voiture.
Oui, ma Camaro 80 ans, ma Camaro T-top, là, on va la sortir un peu.
Je te souhaite d'en profiter. Écoute, il y en a juste un, Christian Page, et tu viens d'énumérer toutes les raisons des gens qui travaillent comme toi sur mille et un projets, qu'on vient de terminer un livre, on a mis un livre en impression, on en a deux autres en continu. on va être également en meilleur moment pour l'été, assurément, pour les radios X-Files, Suspect X aussi. On a déjà enregistré notre épisode pour lundi prochain. C'est Pogo le clown qui s'amène John Wayne Gacy pour notre dernier Suspect X. Christian, je pense qu'on te le dit pas assez. Il y en a juste une chance qu'on t'a à l'antenne. Je te remercie pour la super de belle saison que tu nous as fait.
Mais ça me fait plaisir.
Un très bon été. Essaie de te reposer et profiter de temps avec ta conjointe au travers de tout ça. Je te dis à la prochaine, mon cher. Je te remercie beaucoup.
Ben toi aussi. Pense un bon été aussi.
Aux auditeurs également, la Sexploratrice s'en vient sur les ondes dans les prochaines minutes. Elle veut t'inviter d'ailleurs. Je vais vous mettre en contact.
J'ai tellement de choses à dire. C'est une corde à mon arc qu'on ne connaît pas.
Mais oui, c'est ça. De plus, pourquoi pas faire découvrir aux auditeurs. Bon week-end et bon été tout le monde.
Bye-bye.
Bye.